Radio Campus, Radio, Radio Campus, Campus.
I listen to Radio Campus. 88.3.
Making Waves Avignon présente.
À la jeunesse, le micro.
En direct du Festival d'Avignon.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous! À la jeunesse, les micros!
Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière émission d'À la jeunesse, les micros. Ce soir, nous allons aborder le thème de la santé mentale chez les jeunes. Ce sujet me tient à cœur et je vais vous raconter pourquoi. Après mon bac, je suis parti en prépa d'école d'ingénieur à Lyon. J'étais dans un internat catholique très strict. La pression de mes études, la mauvaise relation que j'entretenais avec mes parents, ainsi qu'un malaise sous-jacent, m'ont mené à faire une dépression que j'ai essayé d'apaiser avec l'alcool. J'étais en train de perdre pied, mais ça ne faisait que commencer. Et puis, un soir où j'étais fortement alcoolisé, je me suis disputé avec ma copine. Je suis rentré à l'internat et ai tenté de mettre fin à mes jours en avalant plusieurs cachets de Xanax. Ma mère est venue me chercher le lendemain et j'ai dû abandonner mon école. Ça a été le début d'un enchaînement de plusieurs années de souffrance, d'alcoolisme et de dépendance aux anxiolytiques. Je ne pouvais quasiment pas sortir de chez moi sans être calmé par une substance. Mon comportement, inadapté, parfois violent, m'a mené à perdre la dernière chose qu'il me restait, ma fiancée et tout ce que cela implique. Mon appartement, notre chat qui me manque encore à ce jour. Quand on a tout perdu, on ne peut que remonter. Après plusieurs sevrages infructueux en milieu hospitalier, je me suis pris en main. En faisant cette fois une cure pour soigner ma dépendance à l'alcool, puis une post-cure pour renforcer mes acquis et me débarrasser des anxiolytiques. J'ai un excellent souvenir de ces mois passés en compagnie de personnes, tout abîmées par la vie et solidaires entre elles. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je n'ai pas bu une goutte depuis le 24 mai 2023. Et c'est ce qui me permet de me tenir devant vous ce soir. Mais je n'oublie pas mon passé, et je n'en ai pas honte. Il m'a construit, et j'en garderai la trace toute ma vie. Nous avons tous un passé, même quand on est jeune. Ce vécu, je vais le mettre à contribution maintenant, avec les personnes qui m'entourent à cette table. On va parler de comment on perd pied, comment on cache notre mal-être et comment on essaie de s'en tirer. À la jeunesse, les micros, 9e émission, c'est parti.
Et la déprime, elle est pour qui?
Et la déprime, elle est pour qui?
Et toi, comment ça va?
Bonjour Maëva Largier, bonjour Adrien Betz. Maëva, vous travaillez dans un centre d'accueil pour migrants. Et quant à vous, Adrien, vous êtes écrivain. Vous êtes l'auteur de 2 romans, 5 dans les yeux et Tibi la blonde. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Comme vous l'avez entendu, nous allons parler de santé mentale. L'émission d'hier a été forte en émotions. Donc aujourd'hui, on a décidé de quitter le plateau et de se rapprocher du public. Cher public, sentez-vous libre de participer à tout moment. J'ai une question pour vous tous autour de la table. Avez-vous déjà perdu pied?
Alors bonsoir, moi c'est Louise Bréon. Cette émission, elle est très importante pour moi parce que c'est un sujet, la santé mentale, qui me touche énormément. Et je voulais vous faire une petite présentation de moi en quelques lignes. C'est assez difficile à faire, mais du coup, je vais vous la lire.
Vas-y.
Déjà, je l'ai appelée, cette première partie. J'ai toujours perdu pied, jamais touché le sol. Louise, en quelques lignes. Depuis l'enfance, elle a l'impression d'être zinzin. Elle n'est pas assez folle pour aller en HP, mais pas assez normale pour aller à l'école. Elle n'a jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit, mais elle est suivie depuis toujours pour grosse dépression, phobie scolaire. Pourtant, elle n'a jamais été harcelée, n'a jamais vécu de trucs vraiment horribles. Mais dès le collège, elle n'avait plus aucune envie de se lever le matin. Pas envie de vivre, mais pas envie de mourir non plus. La zone grise. Elle a un besoin de contrôle permanent qui se traduit par une nécessité de passer des heures devant son PC. Et dernier signe particulier, une obsession pour tout ce qui touche à Hello Kitty et le rose en général. Je voulais faire cette petite présentation juste pour un peu contextualiser ce dont on va parler après et peut-être un peu pour vous montrer qui j'étais et pourquoi je réagirais comme ça. Et, mais voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai jamais vraiment perdu pied, mais c'est vraiment en fait, j'ai jamais eu le pied tout court. Et voilà.
Bertie ?
Moi, je te rejoins vachement sur ce truc-là de... C'est comme si tu étais dans l'océan direct et tu n'as pas pied, mais depuis très très longtemps. Moi, j'ai toujours un peu eu ce sentiment-là depuis que je suis très très petite. Depuis que je suis toute petite, en vrai, je crois que dans mes journaux intimes, depuis que j'ai 12 ans, je marque que ça va pas du tout, et quand je les relis, je me dis waouh, l'angoisse. T'as ce truc là aussi de qui s'ancre, et au fur et à mesure, t'as l'impression que t'as un peu pied, et puis il y a des jours où ça craque. Moi, il y a plusieurs fois, 4-5 fois dans ma vie où j'ai vraiment eu le sentiment de perdre pied.
Est-ce que tu peux peut-être expliquer ces moments-là, si c'est possible pour toi en tout cas?
Je sais pas, quand je suis rentrée en études, que je me suis retrouvée toute seule. Je venais d'un coin en Bretagne, donc c'était avec mes parents pas loin. Et je me suis retrouvée toute seule à Paris d'un coup. Et le psychiatre que j'avais vu m'a vraiment donné des doses de cheval. et en fait, quand t'es toute jeune, que t'es toute seule, c'est assez dur de gérer tout ça. Et quand t'as ce truc-là, d'avoir des moyens d'anesthésier tes sentiments, d'anesthésier tes émotions, bah, ça peut partir en couille. Donc ouais, il y a ce truc-là de perdre pied aussi, quand on te donne de quoi perdre pied, de quoi t'anesthésier, et qu'on ne te dit pas assez bien comment faire, que ton suivi n'est pas là. Et c'est un vrai suivi, il ne faut pas être tout seul lâché avec des médocs.
Ouais, malheureusement, il m'est arrivé un peu la même chose qu'à toi. C'est vrai que les médecins donnent facilement des cachets, nous disent d'aller voir un psychologue, mais c'est difficile là, aussi d'en avoir un. C'est très difficile. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, peut-être que Maëva, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est encore plus difficile. Justement, les gens qui sont dans ces structures, des centres d'accueil de migrants, comment c'est pour eux?
Alors, juste petite clarification, je ne travaille pas dans un centre d'accueil pour des personnes migrantes. Je suis bénévole dans ce centre-là, mais je ne travaille pas comme psychologue. Et je travaille en ce moment comme psychologue dans une association d'aide aux victimes, donc pour des personnes victimes d'abus, violences, enfants, adolescents, adultes. On dit victime d'infraction pénale, ça peut être accident de la route, enfin tout événement voilà, de vie. Et je travaille aussi dans un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, à l'hôpital psychiatrique, ici, là, à Montfavet. Voilà,
d'accord, ok. Du coup, comment vous faites pour suivre ces jeunes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les suivre efficacement, pour éviter de les laisser tout seuls? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, malheureusement, je crois qu'on est... On est dans une situation où les structures qui ont cette responsabilité-là d'accompagner des personnes qui vivent un moment dans leur vie de souffrance, c'est des structures qui ne vont pas très bien pour plein de raisons et qui, du coup, ont de la difficulté, je pense, à suffisamment bien accompagner. Des listes d'attente importantes, c'est ce que tu disais, on a besoin d'un psychologue dans un court terme et puis on en aura un que dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, c'est des structures où les professionnels aussi ne vont pas toujours très bien en tant que professionnels parce que ne peuvent pas forcément prendre les décisions par eux-mêmes, parce que budgétairement, on enlève des postes, parce que voilà. Et c'est un paysage qui est un peu détérioré quand même.
Voilà. Ouais. Et justement, à ce sujet, est-ce que vous avez perdu pied, justement, en n'étant pas assez écouté, en ne pouvant pas faire votre travail comme il faut?
Alors, j'ai été très remuée en tant que professionnelle par des décisions sur lesquelles j'étais en désaccord à plein de moments.
D'accord.
Voilà, en essayant de par exemple, un jeune en difficulté qui met à mal, avec, on dit, des troubles du comportement, qui monte sur le toit, met le feu à la poubelle, enfin voilà, fait plein de et où on le vire, on l'exclut de l'établissement et donc qui se retrouve sans solution. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles moi, j'ai pu être souvent... je donne un exemple en désaccord. Mmh. Heureusement, je pense pour moi, je suis partie un peu à temps pour aller mettre de l'énergie ailleurs dans des choses qui avaient plus de sens pour moi. En tant que professionnelle, quand mes valeurs ne sont plus suffisamment respectées, j'ai pris soin de ça et il faut garder du sens. Ouais. Dans notre travail.
Adrien Bels, je reviens vers vous dans un instant. On va juste écouter un petit reportage. Donc, il a été capté par Renaud Lupovici au restaurant Graines de Piment. Il est allé à la rencontre de deux jeunes qui y travaillent, Lola et Foued. Je vous laisse l'écouter et on poursuit notre discussion juste après.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à nous.
La vérité, sincèrement, c'est une génération, une époque de merde. Je m'appelle Foued, j'ai 17 ans, je travaille au restaurant en ville, je suis cuisinier comme serveur. Tous les soirs, je pense à mes cadavres, à mes démons, les morts que j'ai vus dans ma vie. Ça me range la tête, faudrait oublier ça, mais c'est pas possible. Au début, je buvais pour pas me rappeler. Ça aide, mais c'est pas une solution à long terme. Après, je fais avec.
Mais moi, c'est Lola, j'ai 18 ans, je travaille dans le restaurant d'insertion aussi. Et moi, niveau santé mentale, pendant un moment, tout ce qui était psychologue, psychiatre, j'avais une certaine réticence. Pour moi, c'était pour les fous, tout ça. Et quand j'ai vu que mes traumas ils commençaient vraiment à m'impacter, que ça revenait beaucoup dans mes cauchemars, je me suis réfugiée dans l'alcool aussi pendant un moment. Là, j'ai commencé à me dire, bon, il faudrait peut-être commencer à voir des psys, des psychiatres, parce que ça ne va pas le faire. Et du coup, là, ça va faire un an que je suis suivie psychologue et psychiatre. Juste parler, c'est pas quelque chose qui m'aide, moi, personnellement. Vivre avec la joie, je pense pas que ce soit possible un jour, dû à mes traumas, parce que, bon, je vis, parce que, voilà. Mais je sais que ça me retiendra, genre, tous les jours, j'y pense, tous les jours, c'est à moi, et ça sera toujours là. Ce sera toujours quelque chose qui me pèse. Donc, même si j'arrive à passer des bonnes journées, à penser à d'autres choses, à des moments, il y a toujours ça qui va me rattraper. Et toute ma vie sera derrière moi. Donc, je sais pas si je pourrais vraiment, réellement être heureuse un jour.
Tant que je suis vivant, je respire, moi je suis content. Ça me va. Je vois un psychologue une fois par mois, parce que j'ai une obligation, mais pas plus. C'est tout. Je lui parle pas de ma vie, je parle juste comme ça, c'est tout. On parle des trucs tous les jours, tu as fait quoi, de la météo, du journal, de la guerre, le Hamas, tout ça, par exemple. On parle des trucs qui se passent dans le monde, voilà. Ça tenait que de moi, j'irai pas.
J'en parle pas, j'y pense pas, je vis bien. Je me mets dans un état de déni un peu. Et ce qui fait que mon cerveau, il n'y pense pas, donc ça va.
Comme on vient de l'entendre dans ce petit reportage, on a l'impression que beaucoup de jeunes aujourd'hui perdent pied à cause de tout ce qui se passe dans l'actualité. On a l'impression que y a un mot qui est sorti, de l'infobésité. En gros, on prend trop d'informations sur beaucoup trop de choses en même temps. Ce qui se passe entre Israël et Palestine, les menaces de la Russie, les Ouïghours, ce qui se passe au Congo. Est-ce que vous pensez que cette exposition est nocive pour la santé mentale des jeunes?
Moi, je pense qu'elle est nocive pour tout le monde, hein, pas que pour les jeunes. Moi, je suis ni jeune ni vieux. Je suis entre deux âges. Et j'ai Instagram. Et je suis happé par ces fils de vidéos de 15 secondes. Et je trouve ça fou de passer d'un chaos de MMA à un enfant qui pleure en Palestine. Voilà, on est tellement dans un truc contrasté en émotion, et il y a une espèce d'addiction aussi qui se met en place là-dedans. Alors bien sûr, c'est vrai que l'information, elle fait peur. On voit dans un mouchoir de poche, on a Trump qui manque de se prendre une balle. On a Bardella qui avait presque la majorité absolue. Le front de gauche qui n'arrive pas à se mettre en place. Ce truc, on est tout le temps dans un truc qui nous où on a l'impression que ça nous touche personnellement. Alors qu'avant, peut-être qu'on avait peut-être plus de recul. Peut-être qu'on ne se disait pas que c'était la fin du monde tout le temps, mais aujourd'hui, on se dit tout le temps « Ah, Trump, il ne s'est pas pris la balle dans la tête, et s'il se l'était pris, peut-être qu'il n'aurait pas fait la guerre avec Poutine, et après, maintenant, on va voir. » On est toujours dans une vision un peu à court terme. Alors, il faut passer ses vacances à Avignon, on est content de passer nos vacances à Avignon, et puis on verra en septembre si ça va être chaud pour nous, quoi. Mais c'est vrai que, finalement, on a cette vision toujours à court terme, à l'image de ces vidéos. C'est un espèce de coït psychologique en permanence, coït de l'info, coït, même les infos. Tu lis sur Facebook des infos, tu lis que les chapeaux, tu lis le titre et puis deux, trois phrases.
En vrai, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement aussi. J'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé récemment, que ce soit les européennes, les législatives, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe un peu dans le monde. Et c'est quelque chose qui j'ai l'impression, joue beaucoup sur ma santé mentale. J'ai eu vraiment peur pour ce qui aurait pu se passer en France. J'ai vraiment peur que la guerre se propage jusqu'en France, de par les propos d'Emmanuel Macron, etc. Et c'est quelque chose qui me fait très peur, et je pense ne pas être le seul.
Ça joint vraiment aussi le thème un petit peu d'hyper-empathie, de prendre aussi la douleur des autres qu'on voit via les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et il y a aussi le fait que l'impossibilité de pouvoir agir et en fait être exposé de manière permanente à des choses sur lesquelles on n'a pas de moyens de prise, ça peut faire partie des moments.
Mais ça t'a touché personnellement?
Genre, ouais.
Est-ce que ça t'a...
Ouais, bah on en parle par exemple dans la lutte de ne pas avoir de prise sur ce qui se passe sur ta réalité. C'est ça qui, par exemple, se ressortait de l'émission d'hier, c'est que comment est-ce qu'on en arrive à craquer aussi, c'est quand on n'a pas de prise sur cette réalité-là, une réalité qui peut être violente. Et personnellement, moi, dans ma vie, les moments où les craquages, où j'ai le plus perdu pied, c'est quand j'avais plus prise sur cette réalité-là et la violence que ça engendre au final.
Moi, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous étiez déprimée ou pas ?
Je pense que... Alors, oui, moi, j'ai pu être déprimée à certains moments dans mon adolescence. Parce que j'observe quand même que là, il y a ce que vous dites, hein, le contexte actuel, tout ce qui se passe autour, hein, des choses sans sens, de la violence, des choses qui nous touchent, heureusement aussi que ça nous touche
et, qu'est-ce qui
et que
touche
ça nous dérange. Hein. Qu'est-ce qui me, dans l'état,
actuellement,
dans l'état du monde,
le plus,
je pense, c'est la violence pour moi.
D'accord.
C'est voilà, une violence que j'ai du mal à comprendre, qui pour moi fait pas sens. Voilà. Mais après, je pense que ma chance à moi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression de pouvoir un petit peu agir dessus, à ma place, à ma manière, en tant que psychologue. Pour moi, les psychologues, on prévient la violence à l'intérieur de soi, la violence dans les liens proches. Voilà. Donc moi, je me dis, ok, je suis un peu militante dans l'association pour les personnes réfugiées. Et je pense que ça, c'est une des manières qui permet peut-être de tolérer tout ce qui est intolérable qui se passe autour de nous, sur lequel on n'a pas de prise, quand on fait des choses qui ont un peu de sens dans notre vie. Je crois que c'est ce que vous faites là, ici, oui, aujourd'hui.
Hein. Tout à fait.
Moi, je suis déjà dans les pistes de solutions. Mais je crois qu'à l'adolescence, c'est quand même un moment particulier dans la vie, un moment de changement où on est remué, aussi juste physiologiquement, au niveau des hormones, la puberté, c'est quand même... Il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur, des moments où on se pose des grandes questions qui ne sont pas inintéressantes, mais difficiles. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, des questions un peu existentielles, quelle place j'ai envie de prendre. Voilà, on lâche les parents, on est en train de se construire pour un autre avenir, un avenir qu'on a du mal à imaginer dans l'état actuel des choses. Donc c'est un moment où il y a souvent quand même des affects dépressifs qui sont un peu normaux aussi, qui sont à traverser, et des fois c'est plus grave parce que ça s'installe sur le temps et ça empêche de vivre la vie. Hein. Mais c'est normal d'avoir du vague à l'âme à ce moment-là de la vie, je crois.
On va passer à notre deuxième partie, mais avant ça, on va écouter la chronique de Candice Florence, qui est une jeune journaliste et qui nous l'a concoctée aux petits oignons. C'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression de fonctionner comme la petite fille de Vice Versa. Par moments, mes petits personnages émotions se tapent aussi la tête contre les murs de mon cerveau. Personne ne m'a appris à gérer mes émotions, et en même temps, est-ce que cela s'apprend ? Je suis quelqu'un qui trouve son équilibre dans les excès, comme le dit Riles, le rappeur normand. Je vis dans un manège, ce ne sont pas les tasses tournantes de Disney, mais plutôt les montagnes russes de Tonnerre de Zeus au parc Astérix. C'est encore pire depuis que j'ai arrêté la pilule pour passer au stérilet sans hormones. Mais en même temps, je me sens comme reconnectée à mes émotions. Dans ma famille, on ne parle pas trop de ce qu'on ressent. Alors je garde tout en moi. Mais à Avignon, les remparts ont cédé. La première fois, c'était en avril, pendant les répétitions de La vie secrète des vieux, la nouvelle pièce de Mohamed El-Khatib. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant le monologue de Micheline. Elle nous raconte, façon stand-up, son parcours difficile pour s'accepter en tant que lesbienne. Elle m'a rappelé les grand-tantes que j'ai perdues et qui ont emmené avec elles une partie de mon enfance. Cela m'arrive très rarement de pleurer, normalement. Mais quand j'étais petite, c'était l'inverse. Je me regardais même pleurer dans le miroir. Ma mère, trouvant cela drôle, l'a dit autour d'elle. Je n'ai jamais vu pleurer ma mère. Alors j'ai intégré qu'il ne fallait pas pleurer ou alors se cacher pour le faire. Mais je n'y arrivais plus, je n'y arrive plus, je ne le veux plus et mes parents l'ont bien compris. Pendant ce festival, c'est grâce aux émissions de Making Waves, au contexte politique peut-être, et encore une fois au théâtre, que de l'eau a coulé sous le pont d'Avignon. J'ai l'impression de n'avoir fait que pleurer, et ça fait du bien. Parce que quand ça va mal, il ne faut pas rester seul, mais il n'est pas toujours simple de savoir bien s'entourer. Alors, dans le militantisme comme dans la vie, la lutte c'est ensemble qu'on la mène, mais c'est surtout ensemble qu'on la gagne. Je comprends cette phrase comme une invitation à porter de l'attention aux autres. Dédicace à Basma. L'émission d'hier en est un très bon exemple. Elia, en ouvrant les vannes avec sa chronique bouleversante, a permis à Mariama de révéler la blessure de son cœur, puis à Basma de nous toucher par la force de son histoire, tandis que Linda, Bertie et Robespierre tenaient malgré tout le cap, sous l'œil bienveillant de Christiane Taubira. J'ai l'impression que c'est ça que Making Waves rend possible, non pas dans un théâtre, mais ici, dans un cloître, avec des micros. Je m'explique. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Il y a un festival rempli de vieux qui ont fait mai 68, accueillant en son sein des jeunes loin d'être insouciants, venus débattre sur le fait qu'il faut presque tout changer pour faire à nouveau société. Comme un murmure à la vieillesse, comme un murmure à la jeunesse. Alors voilà, si j'ai bien retenu une chose de mes leçons de syndicalisme à l'école de l'activisme, qui n'est pas Sciences Po par ailleurs, c'est qu'il faut toujours demander plus. Alors, que pouvons-nous faire pour que le Festival d'Avignon, festival de théâtre populaire, devienne plus Making Waves? Merci à vous.
Merci Candice. Alors, on va maintenant aborder un autre sujet, se cacher ou pas. Avant ça, Adrien, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il vous est arrivé de déprimer récemment ou plus dans votre jeunesse?
Déprimé, moi j'ai une jeunesse déprimante, on va dire un peu. Mm-hmm. J'ai pas eu une jeunesse déprimante, mais disons que j'ai une jeunesse un peu dure au départ. Et puis moi dans ma vie, j'ai eu un enfant très très tôt. C'est-à-dire que. Et j'ai eu un enfant d'une manière très abrupte, très brutale. C'est-à-dire qu'un jour. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais un jour, je me suis levé et j'ai vu ma copine accoucher devant moi et j'avais 17 ans.
Des nuits de grossesse.
Voilà. Et en fait, j'ai vécu ça. Et c'est vrai que quand tu as 17 ans et que tu vis ça, à la fois, ça te met comme si tu mettais ta tête dans un bac à glaçons, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que tu te réveilles de quelque chose et à la fois, tu traînes ça aussi toute ta vie, tu vois. Et voilà, c'est comme un truc. Et puis en plus, après, ma fille a eu des problèmes de santé. Donc vraiment, tu vois, je me suis retrouvé à 17 ans à passer le bac et à être dans des services neurologiques alors que j'étais un enfant moi-même. Tu vois, j'avais fait un enfant alors que j'étais un enfant moi-même. Et donc ça, bon, ça, c'est un truc que tu traînes, ouais. Après, voilà, c'est des chocs qui te permettent aussi d'aller de l'avant et puis... Après, avec le recul, bah, tu te dis, voilà, c'est... J'étais un enfant mélancolique, déjà. Avant ça, j'étais quelqu'un de mélancolique. Après, l'écriture aide aussi, je trouve. La création aide à poser des choses, à comprendre des choses.
OK.
Mais voilà.
OK. Mais on nous a dit que vous avez grandi, vous avez grandi avec, dans un endroit où c'était multiculturel, où il y avait plusieurs sortes d'individus. Et ça m'a fait un peu, je tire un peu la couverture vers moi, ça m'a un petit peu fait penser à moi. Moi, je viens de Bobigny, dans le 93, et il y a une chose qui est tacite là-bas, c'est qu'on ne doit pas parler de dépression. C'est qu'on ne doit pas montrer qu'on va mal, qu'on est déprimé, que ce soit chez moi ou dehors. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais tout petit. En fait, à chaque fois que tu montrais que tu étais triste ou que tu n'allais pas bien, on avait toujours l'impression que c'était une preuve de faiblesse. En fait, c'était faire preuve de faiblesse. Et j'ai l'impression que autour de moi, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais je sentais que les gens essayaient un peu de profiter de cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a des moments où je me sentais vraiment, vraiment, vraiment pas bien, mais que j'ai dû quand même garder tout ce que je ressentais pour moi. Et pour essayer d'aller mieux, j'avais ce truc où je me disais que tout s'installait dans le temps. En fait, peu importe à quel point j'ai mal tout de suite maintenant, en fait, d'ici 10 minutes, ça ira mieux. D'ici une heure, ça ira encore mieux. D'ici une journée, ça ira encore mieux. D'ici une semaine, j'aurais probablement oublié ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me faisait juste repousser le problème à plus tard. Et j'ai des périodes où ça va mieux, où ça fonctionne, et des périodes où ça ne va pas du tout mieux.
Et dans ton rapport aux autres, par rapport à ça, enfin, là, justement, c'est toi ta technique, mais est-ce que ça, c'est un truc du coup qui fait que tu cachais tout le temps tes états d'âme aux autres?
En fait, y a une chose très intéressante par rapport à ça, c'est que moi, je me suis mis en couple il y a 3 ans. Et je crois que c'était vraiment la première fois que je pouvais réellement me confier à une personne. Et je ne me sentais pas, en fait, fait, parce qu'au début, en fait, j'étais quelqu'un de très dur. Je ne montrais pas du tout mes émotions, je ne montrais pas du tout mes sentiments. Même si je disais à la personne que je l'aimais bien, je ne disais jamais « je t'aime », je disais que je l'aimais bien. Et j'avais peur de montrer mes sentiments, j'avais peur de montrer quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, j'ai pu m'ouvrir à cette personne parce qu'elle avait su me mettre en confiance. Et je pense que quand je me sentais mal, mes frères, mes sœurs, mes parents, personne n'était au courant de ça. Et j'ai l'impression que c'est une des personnes avec laquelle je suis le plus proche aujourd'hui, parce que c'est l'une des personnes avec qui j'ai partagé mes peines.
Bertie, Louise, est-ce que vous voulez réagir à ça? Est-ce que vous vous êtes caché pour pleurer? Est-ce que vous avez montré vos émotions à vos proches? Si oui, auxquels?
Ouais, bah perso, je suis quelqu'un d'hyper névrosé, vraiment super déprimé tout le temps, enfin vraiment... Et on a fait un petit exercice avec Jeanne, Jack, qui sont quelque part là dans le public. Et tous les jours, je leur faisais un petit journal audio. Et je me suis rendu compte, en me réécoutant, que c'était la déprime. Ma vie n'était pas super fun. Alors qu'au final, quand je suis avec des gens, toujours le smile. On me le dit tout le temps que bah, le matin, j'arrive au taf, je souris, je suis dans les transports en commun, dans la rue, je souris. Parce que, et en même temps, j'ai ce truc de ne pas avoir vraiment l'impression de me cacher. Parce qu'en fait, quand je vois les gens, je suis vraiment... Ça me fait de la dopamine, je suis vraiment heureuse de les voir. Mais à côté de ça, c'est vrai que toutes les parties où je ne suis pas avec les autres, tu as ce truc vraiment de névrose qui est là, qui est installé et qui a du mal à partir et qui ressort. Que par exemple, on estime de moi se casse la gueule. Si j'ai l'impression d'avoir foiré une émission, il y a tout qui ressort d'un coup. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de le cacher aux autres.
Bah, tu vois, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis parce que ouais, l'estime de moi, j'en avais déjà parlé, je n'en ai pas. Et c'est exactement ça, ne pas pouvoir parler de ce qu'on ressent. Moi, je l'ai vraiment eu dans ma famille. Et aussi, surtout ce que tu as dit, quand je suis entouré, tout va bien. Mais quand je suis seul, c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai fait un test de personnalité. Et dans la névrose, j'étais à 100%. Quoi. On ne peut pas faire pire. Avant de passer à la partie musicale, on va écouter comme chaque jour la capsule sonore réalisée par notre partenaire Radio Campus. Ils ont posé leur micro dans les rues d'Avignon. Cadavre Exquise, 9e épisode.
Elle est où déjà la troisième?
Mais il faut le dire en cœur.
Ouais, on peut le dire. Est-ce qu'on le dit en D ou est-ce qu'on le crie?
Ça va être dur à dire en cœur.
Normalement, ouais.
Cadavre.
Mais il faut qu'on se mette d'accord sur le rythme.
Bah non, je pense pas.
Cadavre Exquise.
Capsule sonore décomposée depuis l'extérieur des salles de théâtre du Festival d'Avignon.
C'est la rumeur, on fait tourner la rumeur de partout.
Mais c'est plus simple que j'ai dit.
Mais ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps, il y a quelques jours.
Le paiement est trop rapide. Tous les jours, à 17h.
Un ticket déjà ?
Oh, que c'est beau ce que nous voyons là.
Dans la splendeur du jour, on se lève.
Ce spectacle qui n'a jamais lieu relâche les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi et le week-end. Il n'a jamais lieu. Tous les jours.
Le spectacle Ça pue tous les jours dans ma chaussure. À 19h. Et à 19h.
Ouais, et puis c'est le petit Paris qui descend, quoi.
Ça fait déjà 3 minutes 20 là qu'on enregistre. Émile, t'es chaud ?
Émile Erwan, mais t'as vraiment une tête d'Émile. Mais c'est un compliment.
Ah, toi tu viens d'Avignon ?
Non.
Ah bon ? Bah tu viens d'où ? Tu viens du sud ?
Ouais, Bordeaux.
Ah, de Bordeaux.
Mais j'ai de la famille à Toulouse. Ouais, on rigole pas.
C'est
à côté de...
On est sur une île.
Je crois que je t'ai déjà vu en plus. À Toulouse, sans doute.
À Toulouse, c'est pas impossible.
Ça se trouve, j'ai des potes en commun. On s'est déjà vu en soirée.
Regardez vos amis Insta en commun.
Pierre-Marc Aurier.
Elliot.
Non.
Étienne de Liège. Ethan.
Non.
Non,
mais allez sur Insta, ça va plus vite, les gars.
Mais c'est mieux comme ça.
C'est plus marrant.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée.
Bye. Je sais jamais quel moment de la journée.
Maria Massédi, je te laisse le soin de présenter nos musiciens du jour.
Et les micros, ils sont à qui ? Ils sont à nous.
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse, les micros !
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la pause musicale. Comme chaque jour, on va écouter un interprète. Donc, je vais poser des questions en espagnol. Enfin, en français, puis traduire en espagnol, puis écouter en espagnol, traduit en français. C'est bon ? Donc, on va essayer de faire cet exercice-là et je vous demanderai d'applaudir nos musiciens. Hola Rosa de Algefía y Raúl Cantizano. ¿Está bien pronunciado? Ustedes pueden presentarse y decirme qué tipo de música ustedes nos van a interpretar. Je vais traduire. Bonjour Rosa del Refiras y Raúl Cantijano Zano. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel type de musique vous allez nous interpréter ce soir?
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci. Sigo en español. Gracias por invitarnos a este encuentro. Yo soy Rosa de Algeciras, soy cantadora de flamenco y el género que interpreto es flamenco, que es un género donde podemos tocar muchas emociones y muchas sensaciones. Quería deciros que yo también he perdido pie alguna vez en mi vida y no pasa nada. Luego, otra vez, vuelve los pies al suelo. En el flamenco hay una letra que dice: fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Y después de algún tiempo, mi centro vine a encontrar. Así que solamente decir esto, que esto debería ser algo provisional.
Pues yo essayé, ¿eh? Elle a dit qu'elle était très contente d'être présente ici et que parfois elle a perdu pied, mais qu'il y a un état d'esprit qui existe dans le flamenco, c'est que même sur les pierres, on garde pied et qu'on continue, et que elle, même si ça lui est arrivé de perdre pied parfois, mais c'est toujours ancré sur le sol.
Merci, merci beaucoup.
Bueno, yo soy Raúl Cantizano y me dedico a tocar la guitarra. Y me gustaría hacer la reflexión de que bueno, un instrumento puede ser una buena herramienta para ayudarte a pasar por un mal momento, pero también hay que entender el instrumento como un aparato de juego, de disfrute, no de opresión, porque estamos muy oprimidos y estamos muy obligados por la sociedad, ¿no?, a responder al cliché, y tenemos que permitir volver a la infancia, a sentirnos niños otra vez y a jugar.
Je vais essayer encore une fois. Il a dit beaucoup de choses. Donc je vais aller doucement. Lui, c'est Raoul. Il a dit que lui joue la guitare au flamenco et que pour lui, cet instrument-là, ça permettait de revenir à un état d'esprit où on reconnectait avec un enfant. Son enfance à lui, par exemple, où on pouvait se permettre de jouer et de regagner un espoir qui pourrait être perdu dans le monde qui est violent et qui est dur. Et maintenant, nous allons les écouter.
De las 4 de la mañana hasta que el sol se va a acostar. De las 4 de la mañana hasta que el sol se va a acostar. Y el mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Qué dolor tengo en mi pecho cuando está de madrugar. Qué dolor tengo en mi pecho cuando está de madrugar. Y el mayoral con su reto no nos deja descansar. Y el mayoral con su reto no nos deja descansar. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Ay, mayoral. Ay, saca tu machete, Cipriano, y afila tu lampa, José. Saca tu machete, Cipriano, afila tu lampa.
Merci beaucoup.
Decir que este es un tema de origen peruano, no es flamenco, ¿vale? Es un festejo peruano y nada, queríamos compartirlo con vosotros porque forma parte del proyecto por el que estamos hoy aquí en Aviñón, que es el espectáculo de Ginka AC Gray, que se llama The Disappearing Act. Estamos esta semana en el teatro. Más viejo del río, de tanta sabiduría, el pie más viejo del río, como a la mujer dicen que debe de ser
ay bonita, buena y prudente. La lengüita de la gente que habla lo que ve, no debe. Muchas gracias. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Merci Raoul Cantizane et Rosa de Algeciras. Merci, thank you. Noah, je crois que tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Robespierre tout à l'heure.
J'adorais la musique. je voulais le dire juste, j'ai Raoul se gave avec ses doigts sur la guitare. Oui, Robespierre, toi, donc, je voulais rebondir sur ce que tu as dit à propos de la dureté et du fait que tu ne pouvais pas montrer tes sentiments parce que dans ton environnement, on ne te le permettait pas. C'était vu comme une preuve de faiblesse. J'ai ce truc-là aussi un peu qui m'a poursuivi toute ma vie. C'est-à-dire que moi, c'est du côté de ma famille. Il y a certains membres de ma famille qui étaient très durs. Et alors, du côté de ma mère, parce que pour changer, durant les émissions, je vous parle de ma famille encore. Du côté de ma mère, je ne pleurais pas pour ne pas l'affecter en quoi que ce soit, comme j'ai pu déjà le dire. C'est-à-dire qu'on avait déjà assez de problèmes comme ça. Je ne voulais absolument pas que ma mère me voie pleurer. Ça, ce n'était pas parce que c'était un signe de faiblesse, mais c'était parce que c'était, je ne voulais pas que moi, en pleurant, je la fasse pleurer. Et du côté de mon père, c'était... compliqué. Et je voulais faire un parallèle avec un léger, vite et rapide parallèle, comme ça après on passe à autre chose sur la première partie, sur ce qu'avait dit Louise, que tu as jamais eu, que tu as toujours perdu les pieds, que tu as jamais eu les pieds sur terre. J'ai trouvé ce parallèle très joli, moi aussi j'en ai un. Moi mes pieds n'ont jamais quitté la terre, ils se sont enfoncés. Et à chaque fois qu'il fallait que je fasse un pas en avant dans ma vie, il fallait qu'en même temps, je remue la terre pour pouvoir marcher. Voilà, c'est tout pour moi.
Waouh. Ouais, moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu disais, à Marseille, tu vois, dans les quartiers, on dit que quand il y a un mec qui part en vrille comme ça, on dit il a serré. Tu vois, lui, il a serré.
Chez moi aussi, ouais.
C'est le même terme qu'on utilise pour les voitures et pour le moteur. On dit que quand un moteur a serré, c'est un moteur qui a explosé. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'est plus habilité à continuer, à marcher encore. Donc il est sur le bas-côté. Ou alors les gens klaxonnent parce que c'est dérangeant une voiture qui avance plus.
Il bloque le trafic.
Voilà. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a serré. Et ça rejoint ce que tu dis aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je trouve que la maladie mentale, il y a un rapport à la souffrance qui est différent. C'est-à-dire dans le sens où quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui est malade, on va avoir de l'empathie pour lui. On va dire « Oh, il est malade !» Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, au départ, il va déranger.
Ça n'est pas le côté invisible aussi de la chose.
En fait, on se dit, moi par exemple, moi j'ai quelqu'un de jeune dans ma famille, on dit « Ouais, c'est un enfant qui a été trop gâté. » Ou alors « Ouais, vous comprenez, il est comme s'il veut faire chier sa mère, il veut faire chier son père. Mais il est malade en fait !» Et donc, du coup, je trouve qu'on a vraiment un rapport à l'empathie de la souffrance de l'autre qui est très différent dans cette maladie-là.
C'est très vrai ce que vous avez dit. Renaud, ce matin, tu m'as dit que tu avais envie de partager une histoire avec nous ce soir. On va t'écouter.
À la jeunesse, les micros !
Les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Alors, hier, j'ai voulu écrire sur le thème de la santé mentale. J'ai commencé à noter pas mal d'idées autour du concept de l'esprit sain dans un corps sain. La marche quotidienne est bénéfique pour la santé. Tout le monde sait que prendre soin de sa santé physique fait du bien au mental. Mais comment fait-on dans le cas de pathologies graves ? Du coup, non, je ne vais pas déblatérer sur tout ça. Je préfère parler de cannabis. Avant tout, Je suis une personne qui réfléchit trop, ce détail a son importance dans ma relation à l'addiction. J'ai commencé à fumer en première, seulement avec les potes, en partie pour trouver ma place. Après le harcèlement subi au collège, la tristesse et la solitude, je ressentais le besoin de m'identifier à un groupe éloigné de moi. Du coup, je me suis fait une crête. J'ai commencé à porter des treillis militaires, des rangers et à écouter du métal. J'étais un poil trop sage pour être un punk, mais j'avais le look. En terminale, j'ai acheté mon premier paquet de tabac, ma première boulette de shit. Je voulais arrêter de taxer les autres et devenir celui qu'on taxe. J'étais hyper conscient du danger de fumer seul. Mes parents étaient totalement contre et il fallait que je leur cache à tout prix. C'est en m'installant à Besançon pour mes études que dans mon petit appart, je me suis mis à fumer beaucoup, beaucoup, seul ou accompagné. C'était aussi le moment où j'ai découvert le reggae. Tout va alors très vite. Mes parents me fournissent en argent pour la vie, le loyer, la bouffe. Je commence donc à mentir pour pouvoir continuer à acheter. J'avais honte, mais ne voyais pas d'autre voie possible. La vie défoncée paraissait plus simple, plus drôle, plus belle. Je n'étais pourtant pas heureux. Puis la période Covid est arrivée, et étrangement, mon état mental ne s'est pas amélioré. J'avais pourtant conscience de la chance que j'avais dans ce monde. Certains de mes amis mangeaient moins pour se droguer plus. Certains avaient commencé à fumer dès le collège. C'est à ce moment-là que j'ai eu besoin d'avouer à mes parents comment j'utilisais leur argent. Ça m'a fait énormément de bien. Naître blanc, riche, dans une famille communicative, est sûrement ce qui m'a sauvé du naufrage. Je fais un gros big up aussi à toutes les merveilleuses personnes que j'aime, avec qui je parle, avec qui j'ai échangé, amis d'un instant ou relations profondes. J'en citerai trois, mais il y en a plein d'autres. Roméo, Louis, Zoé, merci d'exister les copains. Bon, là, je vais me prendre un peu au sérieux. J'étais pas au courant, mais je suis maintenant le porte-parole de tous les consommateurs de cannabis de France et, que dis-je, du monde. Aujourd'hui, je suis persuadé que le cannabis n'est pas un problème en soi. L'ignorance des gens, l'état répressif, aveugle et violent en est un. Parents dépassés, frères et sœurs non-fumeurs, directeurs d'établissements scolaires, les politiques là, je vous en prie, accompagnons les personnes souffrant d'addiction. Nous sommes 2 millions. Monsieur Darmanin, nous sommes 2 millions de consommateurs réguliers et je suis convaincu que fumer de la beuh n'est pas en contradiction avec une vie d'adulte responsable, de citoyen. De plus, le chanvre est une super plante. Elle pousse facilement, les fibres sont utilisables en textile, les graines sont des sources de protéines formidables. L'huile est un excellent remède pour les douleurs chroniques. Bon, après j'ai pas de preuves, je suis pas scientifique. En tout cas, je trouve ce monde anxiogène, pas vous ? Et la Marie-Jeanne est parfois de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Fin de la crise d'égo, là c'est du sérieux. Aujourd'hui, pour moi, la vraie vie, c'est pas la vie défoncée. Je sais plus si j'ai fumé pour l'écrire celle-là, bref. Il existe plein d'autres solutions pour faire la paix avec les pensées qui nous tourmentent. Plein de façons de travailler ces traumas, ces blessures. Prenons soin de nous, prenons soin des autres. Soyons la joie au lieu de la chercher. Et vous, comment vous faites pour tenir ?
Quand j'étais ado, dans mes phases dépressives, je ratais l'école. J'osais parler de mes problèmes et je pouvais un peu me complaire dedans. Mais aujourd'hui, pour le taf, j'ai pas le choix. Je veux pas manquer un jour de travail et le fait que personne ne sache que je vais mal, ça m'oblige à agir comme si tout allait bien. Je ne veux pas être la folle de service, je veux être à 100% de mes capacités tout le temps. Alors ça me met une pression de dingue et c'est épuisant. Récemment, je me suis un peu auto-grillée. J'ai été obligée d'avouer que j'allais mal et que j'essayais un nouveau traitement. C'est passé par des absences soudaines, des actes manqués, des petits loupés dans le travail. Maintenant que le masque est tombé, j'ai peur de m'autoriser des moments de faiblesse, de me reposer sur la bienveillance des autres et de me dire que j'ai le droit de rater un jour de travail. Maintenant que j'ai confié ma faille, j'ai peur qu'on me fasse moins confiance, qu'on me donne moins de responsabilités. Dans mes phases zinzin, j'ai le goût de la vie, mais surtout le goût du n'importe quoi. J'ai un tempérament addictif et mes impulsivités, c'est ma façon de faire la bricole pour tenir. Quand je vais mal, j'ai besoin de choses très précises, très matérielles. Il y a trois trucs qu'il me faut absolument. De la grenadine. Je suis capable de faire une crise de panique si je n'ai pas de grenadine à 3h du matin et que j'en ai soudainement envie. Je peux partir seule en ville en pleine nuit pour aller en chercher. Une nouvelle paire de TN, les Nike. Quand ça va pas, je sais que j'en ai besoin. Et une nouvelle couleur de cheveux. Je suis passée par tous les styles, crâne rasé, locks naturels, cheveux verts, bleus, rouges, violets, bruns, blonds, coupe très courte, très longue, gel, cheveux plaqués en arrière. Enfin bref, tout ça, c'est ce qui me permet de maintenir la face et faire genre que ça va bien. Et je voulais savoir si vous aviez aussi des choses comme ça.
Là, on vient de rentrer sur le troisième plateau qui s'intitule en fait « On continue ». Et dans cette partie de l'émission, en fait, on voulait mettre en avant en fait tout ce qu'on peut faire en tant que jeune ou pas jeune. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'aller mieux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre si vous avez des choses à nous dire par rapport à ça.
Voilà, qu'est-ce qui aide ? Moi, je crois ce qui aide, c'est de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et oui. Encore plus à l'adolescence et encore plus quand on est dans un monde qui manque de sens. Voilà, donc avoir une passion, un sport qu'on adore, avec qui on va retrouver des gens, avec qui on va partager des expériences fortes de vie, épanouissantes. Je crois ça, voilà, faire du militantisme, j'entendais, il y en a certains qui, voilà. Parce que quand on perd le sens de son existence, je crois que là, la tristesse peut devenir plus grave et un peu nous envahir, en fait. Et qu'on peut ne plus ressentir ces petites étincelles de vie à l'intérieur de soi, sachant qu'à l'adolescence, tout est beaucoup plus intense dans les ressentis. Donc,
Moi, j'avais une question pour toi, Adrien. Je voulais savoir, tu fais quoi quand tu serres, quand tu as serré?
Je fais comme toi, je vais m'acheter des paires de TN et je vais m'acheter une nouvelle chemise. Ça coûte cher d'aller voir un psy, hein. Je préfère aller chez Zara, m'acheter
après,
une chemise.
200 balles les TN aussi.
Ouais, tu vois, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que je fais ? Le sport, c'est bien. Le sport m'a permis de traverser pas mal d'épreuves. Et l'écriture aussi, hein, franchement. Écrire, c'est un sacré moment où tu te retires du monde aussi. Vraiment, c'est un moment où tu pars complètement dans un décor que tu crées toi-même et dans lequel tu fais avancer des personnages et des personnages que tu fais parler, parfois des fous. C'est très difficile de faire parler un fou. Parce que si tu écris un fou,
est-ce que c'est parce que
ton éditeur va te dire non, personne ne va comprendre ce que tu écris là. J'ai eu l'expérience de faire parler un fou en écriture et oui, il fallait rendre le fou compréhensible. C'est très étrange. Et pourtant, moi, j'avais écrit un truc, j'avais quasiment retranscrit un dialogue qu'un fou m'avait donné. Donc voilà, c'est. Mais se retirer du monde, c'est pas mal. Le sport, aller faire du shopping. Il faut continuer à aller faire du shopping.
Bertie, tu voulais dire quelque chose ? Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça qui t'a...
Moi, ce qui m'a vachement aidé à ne pas retomber en dépression, c'est d'adopter un chien. Il y a 4 ans, je ne sais pas, j'étais dans le mal, c'était le confinement, ça craignait. Je me faisais pas mal chier. Je me suis dit, waouh, j'ai toujours voulu un chien. Quand t'as 20 ans, adopter un chien, c'est pas forcément la meilleure des idées parce qu'après, ça te bloque pour pas mal de trucs. Mais perso, pour moi, je me lève, je vais marcher, je fais pas mal d'heures de balade parce qu'il a pas mal d'énergie. Mais de marcher, justement, ça rejoint le sport. T'as ce truc-là de se dire,
ça t'oblige.
Je vais marcher, je vais me balader, je vais courir avec lui, je vais essayer de trouver des trucs fun à faire. Dire que t'es obligé de partir pendant des heures dans la forêt, je dis pas que c'est la solution à la dépression, mais moi, quand je vais marcher pendant... c'est mon meilleur pote, quoi.
Très bien. Noah ?
Ben, c'est un peu triste, moi, ce que je vais dire. J'ai pas eu de solution miracle, de déclic, mais bon, comment dire ? Avec l'habitude, c'est une petite discussion qu'on avait eue avec Miguel, qui est la technique. Parce qu'avec l'habitude, plus on te rabâche la même chose, moins ça a d'effet sur toi. Donc, je veux dire, je sais que je suis gros, sans déconner, mais... Alors, au début, je les tapais, mais après, tu finis par t'en foutre. Et c'est pas non plus une solution, mais le fait que ce soit récurrent, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes parce que ça marche pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça rend plus robuste.
Adrien, je t'ai vu récupérer le micro, j'avais l'impression que tu avais quelque chose à dire.
On en revient toujours à l'histoire du mouvement, être en mouvement, mais il y a un truc qui est aussi, je trouve, c'est le moment où on s'endort, le moment de dormir. C'est un truc que je trouve assez... ou qui nous renvoie toujours à nos pensées, je trouve. Tu vois, tu parlais de ton chien, mais après, à un moment donné, il faut aller au lit. Et le lit, c'est le moment où ça commence à cogiter.
Alors, avant de finir l'émission, j'aimerais juste dire que moi, en fait, tout le monde parle de bouger, mais moi, c'est pas du tout ça. En fait, moi, c'est les jeux vidéo. Je pense que lui, il se partage la même passion que moi. En fait, c'est juste, à chaque fois que je me pose devant un jeu vidéo, j'oublie tout. Je joue, je suis à fond dans le truc et ça m'aide beaucoup à me sortir beaucoup de choses de la tête parce que moi, l'un de mes plus grands problèmes, c'est vraiment la rumination. C'est réfléchir les problèmes encore et encore, les tourner dans tous les sens. Et donc, quand je me pose, je me plonge dans un autre univers, ça me permet vraiment de sortir beaucoup de choses.
Mais tu bouges quand même dans un jeu vidéo.
Ouais, ouais.
Mais c'est un toi numérique, mais c'est un toi quand même.
C'est exactement ça, ouais.
On va conclure peut-être, ça sera bien. Donc notre émission touche à sa fin malheureusement. J'espère qu'elle n'aura pas été trop plombante, mais qu'elle vous inspirera et qu'elle vous donnera des clés pour, je l'espère, aller mieux. En discutant avec vous, je me rends compte que je ne suis pas seul. Ça me rassure d'un côté, mais de l'autre, c'est assez terrifiant. Alors serrez-vous les coudes, comme nous l'avons fait ce soir. Écoutez et livrez-vous si besoin. Merci à Maëva Largier et à Adrien Bels pour leur participation à cette avant-dernière émission. Merci à vous d'avoir été là. On retrouve maintenant et pour finir Idriss avec sa chronique musicale. Idriss, c'est à toi.
Merci.
Ça fait quelques jours que j'ai pas dormi. Il me reste plus beaucoup d'amis. Ils ont quitté le navire. Mon cœur chavire, mes yeux se ferment, j'ai mal à laver. Donc je m'enivre, le lendemain je me sens vide. Une journée horrible, j'espère pouvoir me repentir. Avant que tout se termine, je dois l'oublier, facile à dire. Quand la tentation se mêle à nos désirs, difficile de résister, ce soir je peux pas rester. Elle est belle mais où est la bonne, à son corps je m'abonne. J'ai une vipère autour du cœur, tout ça c'était qu'une erreur. Mais je le referai tous les jours. Reste dans mes bras jusqu'à que se lève le jour. Toute la nuit je te mange le cou, je prends les devants, je te récupère. Toi et moi on fait la paire, active ton répondeur. Ce soir on sera de bonne humeur, ouais. Ce soir on sera de bonne humeur. Je me voyais poser avec Marianne. Toutes ces histoires m'ont fait perdre ma néant. Tout ce que je voulais c'était un peu d'amour. Je suis parti distribuer la mort. J'ai toujours assumé mes torts. Même si ça me rongeait mon corps. Jamais refusé un corps à corps. J'ai fini déçu, j'ai tué le cœur. Mon défaut c'est la bouteille. Celle avec une touche de miel. Avec elle j'oublie tous mes problèmes. Tous les jours elle me rappelle. Mon défaut c'est la bouteille. Celle avec une touche de miel. Avec elle j'oublie tous mes problèmes. Tous les jours elle me rappelle.
Merci, merci, merci.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Ils sont acquis.
Ils sont acquis.
Merci, le micro, il faisait genre deux têtes de plus que moi. Heureusement, j'ai réussi à le rattraper. Merci beaucoup pour l'aide. C'était à la jeunesse, les micros. Merci pour cet avant-dernier plateau. J'ai aimé tous les mots que j'ai entendus. J'ai trouvé que c'était très juste. Merci de parler pour tous ces jeunes qui parfois se taisent, mais qui souffrent. Merci de parler de ceux qui souffrent, mais qui parlent, mais qui des fois parlent mal, qui des fois répondent mal, mais il faut les pardonner quand même. Bon, je vais lire ce qui était censé être lu. C'était à la jeunesse les micros, un projet de Making Waves et du Festival d'Avignon, avec aujourd'hui Clément Chaise, Noah Dimenza, Bertie Gado, Robespierre Ganro et Louise Brion. Les chroniques étaient signées par Constance Florence, Renaud Lupovici et Idriss Vidar. Le reportage par Renaud Lupovici, à la technique Enzo Coquerel et Miguel Bruno Beau. Je l'ai bien dit, hein ? Oh, merci. À la rédaction, Linda Swakria, Maria Masseidi, Basma Nasser et Elia Fedjak. On se retrouve pour notre dernière émission qui aura pour thème Le Refuge. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets de Making Waves sur notre site www.mkwaves.org. À demain, merci pour tout. MKV.
To the New York trader I did belong. She was fit for sea, both stout and strong.